Bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors, est-ce un voilier, un sous-marin, un canoë gonflable, un yacht, un hors-bord, un porte-avions, une goélette ou un pédalo? En tout cas, elle vogue, notre émission d'été. Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, comment on dit ça?
Formidable.
Jennifer Murzeau, vous êtes journaliste et romancière, mais votre dernier livre, La vie dans les bois, chez Alary Édition, n'a rien d'un roman. Bonjour Jennifer Murzeau.
Bonjour.
Franck Tillier, on dit Tillier, je ne me trompe pas.
Exactement.
Franck Tillier, vous êtes l'un des 10 auteurs les plus lus en France. Vous signez cette année Lucas aux éditions Fleuve Noir. Bonjour Franck Tillier.
Bonjour.
Et voici la clé du mystère des rencontres. Ce vendredi, Franck Tillier nous expose la face la plus sombre du progrès technologique, tandis que Jennifer Murzeau dit carrément bye-bye à la civilisation. Magnéto Juliette.
France Inter. Estivalitude.
Qu'est-ce que ça veut dire ça encore?
Christophe Bourseiller.
Jennifer Murzeau, vous aviez déjà lu Franck Tillier?
Non.
Jamais? Rien
non,
du tout? Pourtant, vous savez qu'il est l'auteur d'une trentaine de livres.
Je sais bien, mais
La
je vais
Chambre
me rattraper.
Des Morts, qui a été adaptée au cinéma, La Mémoire Fantôme, Gattaca ou encore Pandemia. Et vous, Franck, vous saviez qui était Jennifer Murzeau?
Non, je ne la connaissais pas, mais bon, je me suis un peu renseigné. Et j'ai trouvé vraiment la démarche du dernier livre très intéressante. C'est ce qu'on a tous envie de faire, un jour de s'immerger. Une semaine dans la nature, mais on ne le fait pas, et elle l'a fait, donc je trouve ça extraordinaire.
Elle l'a fait, et justement pour moi, l'intérêt c'est que vous complétez, parce que vous, Franck Tillier, dans votre dernier livre, Lucas, vous nous faites découvrir donc la face cachée du progrès technologique, et vous, Jennifer Murzeau, vous la fuyez, cette civilisation prise de folie. Alors Franck Tillier, comme d'habitude avec Lucas, je dirais comme d'habitude parce que j'ai lu d'autres de vos livres, vous m'avez scotché, parce que ce qui vous caractérise, je vous le dis Jennifer, sachez-le, c'est le style de Franck Lucas, c'est le fait qu'on ne peut jamais anticiper au début du livre ce qu'on découvrira au milieu puis à la fin. Donc on est obligé de le lire en entier jusqu'à la dernière page, sinon on a rien compris. Et là c'est particulièrement complexe. L'écriture pour vous c'est avant tout une construction scénaristique, Franck ?
Oui, alors il y a un peu de cela. Alors ça c'est ce qu'impose le genre, hein. C'est le genre du roman policier, du thriller, donc forcément c'est un genre très rigoureux parce que c'est le genre de l'enquête policière avec des procédures, avec des enquêteurs qui essayent de trouver un assassin. Donc évidemment il y a cette partie scénaristique aussi pour créer aussi du suspense, c'est-à-dire des chapitres qui sont assez courts et qui se finissent toujours sur un suspense qui nous pousse à continuer la lecture jusqu'au bout du roman. Donc il y a du suspense, il y a aussi beaucoup de passion aussi, parce qu'il faut aussi beaucoup parler des personnages, c'est important. Donc il y a l'histoire et les personnages, et c'est le mix des deux qui pour moi fait un bon livre, je pense.
Ce qui caractérise Lucas, c'est le fait qu'on voit surgir, au début du livre, un mystérieux terroriste qui veut freiner le progrès technologique et qui se fait pompeusement appeler l'ange du futur. En réalité, on va découvrir plein de choses. On va découvrir que c'est un scientifique qui s'appelle tout simplement Fabrice Chevalier. C'est moins pompeux que l'ange du futur, évidemment, sur lequel on va d'ailleurs découvrir des choses ahurissantes. Alors moi, il m'a fait penser, ce pervers un peu tordu, faut dire, il m'a fait penser à quelqu'un qui a existé. C'est un terroriste qui s'appelait Una Bomber. Ça vous dit quelque chose, Franck Tillier ?
Oui, complètement. C'était un peu. Je me suis servi un peu de ces modèles-là entre guillemets pour construire ces personnages. Aujourd'hui, alors il y a les terroristes qu'on connaît, puis il y a les terroristes qui utilisent Internet pour vraiment exprimer leur motivation. Et celui-là, il est assez particulier parce que
votre terroriste.
Mon terroriste, il utilise ces réseaux qu'il déteste et qu'il dénonce parce qu'il n'a pas d'autre choix et pour montrer dans le monde dans lequel les gens sont en train de s'enfermer.
Voilà, il est le roi du web, il est le roi des réseaux sociaux, alors qu'il déteste le web et les réseaux sociaux. Je voudrais qu'on écoute un petit extrait de reportage de France 2 qui date de novembre 1997 sur Una Bomber.
Cet homme arrêté en avril 1996 dans une cabane sans eau ni électricité perdue au fin fond du Montana s'appelle Theodore Kaczynski. Il a 55 ans, c'est un ancien prof de maths de l'université de Berkeley et diplômé d'Harvard, une grosse tête. Entre 78 et 95, Una Bomber, comme l'a surnommé la police, a envoyé 16 colis piégés, tué 3 personnes et blessé 23 autres. C'est son propre frère, David, qui a permis de le confondre. Il avait reconnu le style, les tics, les mots de celui qui avait obligé le Washington Post, sur 8 pages, à publier son manifeste destiné à dénoncer le système, la technologie qui, pour lui, dépouille les citoyens de leur dignité. En échange, il avait promis de ne plus tuer.
Un grand scientifique qui se retourne contre la science et qui décide de tuer des scientifiques pour freiner le progrès, c'est un peu votre personnage, ce fameux personnage, sauf que votre ange du futur dans ses messages a une particularité, c'est qu'il prédit l'avenir de façon extrêmement précise. Comment fait-il ?
Ah bah ça... Alors ça, je vais pas le révéler parce que ça fait partie d'un des suspens du roman, mais
c'est dommage.
Effectivement, il surprend très très fortement les équipes policières parce que d'une part, il envoie quelqu'un devant le siège de la police judiciaire et cette personne remet une lettre à la police. Elle attend 17h02 et à 17h02, cette personne décède devant le siège de la police. Et donc, mes équipes de policiers, elles sont évidemment très déconcertées parce qu'elles savent qu'elles vont avoir affaire à un adversaire qui se cache derrière des écrans, qui va être très difficile à attraper. Donc, c'est une enquête très différente de celle qu'on a l'habitude de suivre, qui est celle de la traque d'un criminel en chair et en os. Et là, je veux quand même révéler un petit peu, c'est qu'il réussit à prédire l'avenir parce qu'il utilise toutes les nouvelles technologies qui sont à notre disposition aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et les grandes entreprises qui utilisent toutes ces données qu'on leur fournit nous-mêmes pour les manipuler et pour en sortir des algorithmes prédictifs, on va dire, un peu des événements à venir.
Alors vous savez, Jennifer Murzo, que Franck Tillier, tout son livre va tourner autour d'une bande de cinglés de haut vol qui pratiquent des modifications corporelles. C'est-à-dire, ce sont même pas des scientifiques, ce sont des amateurs qui se charcutent les uns les autres au nom d'une sorte de rêve prométhéen. Alors il y a des performeurs, des gens de théâtre, des sadomasos, et alors ils vont très loin parce qu'ils ont des puces sous-cutanées. Dans vos enquêtes de journaliste, vous avez rencontré comme ça des adeptes des modifications corporelles?
Oui, ça se fait.
Vous êtes modifié, vous, Jennifer?
Non, moi, pour l'instant, j'ai pas trop tripoté. Je me suis pas risquée à ce genre d'expérimentation. Mais non, je sais qu'effectivement, ça se fait et que ça se fait volontiers dans une espèce d'amateurisme. En effet, c'est plus forcément des gens qui maîtrisent particulièrement ni la médecine ni la technologie qui s'y risquent. Et donc, ça prouve. Enfin, pour moi, ça fait partie des symptômes de cette société malade.
Alors tout ça, vous savez, a été prédit par un des théoriciens du transhumanisme. En mars 2014, c'est Ray Kurzweil.
Dans les 20 ans qui viennent, des nanorobots entreront dans nos cerveaux au travers nos vaisseaux capillaires. Et ils connecteront simplement notre néocortex à un serveur informatique externe. Ce sera une sorte d'extension de notre cerveau. Nous aurons alors un système de pensée hybride avec des composants biologiques et non biologiques. Mais la partie non biologique grandira de manière exponentielle. Aucune autre espèce n'a fait ça.
Alors vous vous rendez compte, on ira chez le coiffeur et on vous glissera des nanorobots par les cheveux en quelque sorte. C'est vraisemblable. En fait, votre livre, ce que vous racontez, c'est déjà là ou c'est une anticipation, Franck Tillier ?
Il y a des éléments qui sont déjà là. Là, ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme fort, enfin l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire des personnes transhumanistes qui pensent que un jour la machine va vraiment remplacer l'homme, que l'homme va disparaître. Enfin,
l'homme va se transformer en une espèce de chose bizarroïde.
On n'aura plus besoin de corps, il restera juste les cerveaux qui transiteront comme ça dans des circuits.
D'un robot à l'autre.
On en est encore assez loin, je pense, mais par contre, les puces, par exemple, en Suède, ça fait déjà quelques années que les...
C'est quoi l'intérêt d'avoir une puce sous le poignet, comme certains de vos personnages?
C'est un peu là une extension de... C'est comme si on vous greffait un téléphone portable à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vous ne pouvez plus le perdre, vous ne pouvez plus l'oublier, vous pouvez payer votre métro en passant votre main devant le lecteur. Quand vous allez en entreprise, vous n'avez plus besoin de badger. mais c'est effrayant parce que ça veut dire quelque part.
Vous savez qu'à Radio France, il faut beaucoup badger pour que les portes s'ouvrent. Je présenterai juste mon poignet et les portes s'ouvriraient d'elles-mêmes, c'est ça? C'est un peu effrayant ce que
vous
dites.
Mais il y a des entreprises qui ont déjà inauguré ça dans la vraie vie.
En Suède, ils le font. En France, probablement, je pense que ça va arriver. C'est effrayant parce qu'on perd un peu ça. Au-delà de l'aspect pratique, quand même l'aspect déjà d'avoir un corps étranger à l'intérieur de soi et puis d'être tracé.
Alors dans Lucas, vous allez encore plus loin, Franck Tillier, parce que vous évoquez plein de choses et vous évoquez l'existence d'un phénomène dont je connaissais les hackers informatiques, mais je ne connaissais pas les biohackers. C'est quoi le biohacking?
Le le principe du hacking, de manière générale, c'est d'être libre. C'est-à-dire, on ne veut pas dépendre du système et on estime pouvoir être libre. Dans l'informatique, voilà, il y a des gens qui piratent les programmes en disant, voilà, c'est notre liberté de faire ça. On ne veut pas dépendre des entreprises. Et d'un point de vue corporel, le biohacking, c'est les gens qui disent, bah voilà, notre corps nous appartient. Il n'appartient pas à l'État, il n'appartient pas à une quelconque entité. On en fait ce qu'on veut. Donc, ce sont effectivement des gens qui vont se faire un peu du mal, entre guillemets.
Ah oui, se métamorphoser eux-mêmes. Le biohacking, c'est les modifications corporelles.
Voilà, en défi de la société, en disant, voilà, on est différent, on n'est pas des moutons, on n'appartient pas à ces gens qui vont tous les jours.
Enfin, ne le faites pas en vacances si vous nous écoutez, parce que ce serait quand même un petit peu dangereux. Je vous propose une petite vieillerie, divine comme une Madeleine de Proust, le groupe anglais Tears for Fears en 1983, Mad World. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses, no expression, have my head, I want to drown my sorrow. Plaisir matinal. C'est une chanson qui vous concerne tous les deux, Jennifer Murzo et Franck Tillier. Le monde est fou, disait déjà Tears for Fears en 1983. C'était Mad World dans Estivalitude sur France Inter. Alors, c'est vrai, Jennifer, que vous complétez admirablement Franck ce matin, dans la mesure où vous avez dit, ok, ce monde est vraiment fou, avec ces malades, les bio-hackers, ces gens qui charcutent au nom d'un rêve prométhéen, ces déviants, ces cinq cinglés en tout genre. Et vous avez tenté une expérience absolument extraordinaire. Vous racontez dans votre livre La vie dans les bois. C'est, on pourrait dire, beaucoup plus qu'un séjour à la campagne, hein, si je puis résumer les choses. Vous avez dit, j'ai décidé de partir plusieurs jours pour m'immerger au sein de la nature avec un hamac, un couteau et François, mon guide de survie. C'est ça?
Bah oui, j'avais besoin d'un guide parce que seule, j'étais suffisamment lucide pour admettre que je serais morte assez rapidement. Enfin, j'aurais pas été capable.
Il paraît qu'on survit 3 jours quand
ouais,
on est.
Ouais, mais c'est douloureux, je pense.
Un Parisien à la campagne, non, c'est ça?
Ouais. Ah, à la campagne, non, ça va. Moi, je fais pas partie de ces citadins malades au point de se sentir vraiment mal dès qu'ils quittent les immeubles, etc. Mais en revanche, c'est vrai que l'objectif, c'était de partir avec le moins d'artifices possible de la vie moderne pour être dans une espèce de contact, de proximité immédiate avec la nature. Et dans ces circonstances, je ne savais pas faire grand chose.
Mais c'est
pas
ce que vous écrivez. Je ne sais pas comment trouver de l'eau potable. Je ne sais pas ce que je peux cueillir pour me nourrir parce que, attendez, il n'y a pas de supermarché. Je ne sais pas où et comment dormir et je ne sais même pas faire un feu. Voilà. Ça commence mal quand même.
Non, en effet. Et je voulais arriver là-bas avec cette, cette candeur, c'est pas de la candeur, hein, c'est de l'ignorance qui est assez problématique. Enfin, moi, je trouve qu'elle est problématique parce qu'on ne sait plus rien faire. Nous sommes dans des sociétés qui nous assistent en tout, où on a décidé que le sens du progrès, c'était finalement de déposséder l'humain d'un tout un tas de compétences. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait plus faire grand chose. Et je trouvais ça intéressant de me confronter à cette incapacité et de voir ce que j'étais capable de, enfin, dans quelle mesure j'étais capable de m'adapter, etc.
Alors là, vous faites une erreur, peut-être, c'est que vous confiez votre destin au début du livre, en tout cas, à un nommé François, qui donc est une sorte de, qui est votre guide dans la nature. Mais le problème, c'est que François, c'est une sorte de survivaliste, mais un peu d'extrême droite quand même. Hein. Pourquoi l'avez-vous choisi comme guide?
Ah, je ne sais pas s'il est d'extrême droite. En revanche, c'est un survivaliste aigri et j'ai l'impression que c'est un peu pléonasmique comme formule. Alors, je ne le pensais pas avant. Ouais, et je pense, non, cela dit, je vais mettre un bémol. Peut-être qu'il y a autant de survivalistes qu'il y a de survivalisme, donc je veux pas généraliser, mais c'est vrai que le survivaliste, j'ai l'impression, a tendance à attendre l'effondrement de pied ferme parce que ça justifiera son existence et ça valorisera ses compétences que nous, connards d'assister, tels qu'ils nous considèrent, n'avons pas ou n'avons plus. Et donc c'est vrai que François, ça l'excitait en fait, la fin du monde.
Alors je voudrais qu'on écoute un document sur le survivalisme.
Le fait de se préparer au pire, c'est la chose qui relie tous les survivalistes. Je suis assez mal vu dans le domaine, car contrairement à une grande majorité d'entre eux, je vois ma préparation avec beaucoup d'entraînement tactique en groupe de combat constitué. Alors que la grande majorité des survivalistes préféreront la défense d'un point stratégique qu'ils sauront rendre autonome, la fameuse base autonome durable, ou BAD. Rester planqué, c'est bien pour du court terme, savoir botter des culs, c'est mieux. Par botter des culs, j'entends par là, entre autres, savoir prendre du renseignement, savoir attaquer un point stratégique pour empêcher une communauté de devenir plus grosse et donc dangereuse pour la vôtre, savoir créer un réseau sécurisé par boîte aux lettres mortes, connaître les principes de base du combat militaire ou de guérilla. Pour moi, ça devrait être la base de tout groupe qui se prétend survivaliste à moyen ou haut niveau.
Alors, je connaissais les zones à défendre, les ZAD comme Notre-Dame-des-Landes, je connaissais pas les BAD, les bases à défendre. Ça, c'est ce survivaliste, c'est une chaîne YouTube survivaliste qu'on a trouvé grâce à Astrid Landon. Et alors, en fait, les survivalistes, ils sont pas très écolos.
Non, en fait, c'est une approche assez sombre, pas assez sombre, c'est extrêmement sombre. Effectivement, l'écologie, finalement, pour eux, c'est juste quelque chose avec lequel il faut composer, puisque ils imaginent un monde dans lequel il y a plus que la nature. Donc
ils sont pas dans la survie collective, ils sont dans le chacun pour soi.
Mais voilà, c'est ça que je trouve très problématique avec le survivalisme. Et encore une fois, je me garde de généraliser parce que je connais pas totalement, je maîtrise pas totalement le sujet du survivalisme. Je dis juste que moi, ce qui m'a gêné avec celui que je me suis coltiné pendant une semaine, c'est le fait qu'il n'y a aucune ambition collective. C'est-à-dire qu'en effet, c'est chacun pour soi et c'est celui qui sera le plus armé, le plus fort, le plus apte à se défendre qui survivra et tous les autres, ils crèveront et c'est quelque part bien fait pour eux. Et donc moi, je lui opposais toujours un discours. Je pense que les choses vont très mal, mais je crois en un sursaut collectif et je crois en l'intelligence collective et je crois en la citoyenneté. Je crois à ces choses-là et si on n'y croit pas, on est effectivement très aigri, très malheureux et puis surtout, il faut pas faire d'enfants. Et moi, j'ai fait un enfant, donc je veux croire que les choses vont mal, mais qu'on peut redresser la barre et vivre autrement, recréer un nouveau projet de société. Le survivaliste que moi j'ai fréquenté n'était pas dans une approche qui consistait à revoir un projet de société, c'était dans une approche où tout s'effondrait et où chacun survivait dans son coin.
Chacun survivait
dans
son coin.
Ça n'a aucun sens.
Je trouve que les survivalistes, c'est des bons personnages pour vous, Franck Tillier.
De bons personnages. C'est vrai
pour le prochain roman, moi, je ferai quelque chose dans le milieu survivaliste avec des fous furieux, comme dans le film Délivrance de John Boorman.
Exactement.
Je pense que oui, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Alors, ce qui est extraordinaire dans votre livre, Jennifer Murzo, c'est que vous nous racontez une odyssée dans la jungle, véritablement, mais qui est très belle d'ailleurs, très bien écrite. Mais en même temps, ça se déroule d'abord en Charente, puis en Ariège. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à Bornéo.
Non, bien sûr, mais c'est ça qui est amusant, c'est que en fait, pour s'immerger dans un environnement qui est complètement dénué de toute trace de civilisation, il faut pas aller très très loin. Et donc la nature, à l'état vraiment sauvage, existe encore. Ce sont des enclaves, il y en a de moins en moins. Il faut les préserver, il faut faire en sorte qu'elles demeurent. Mais il y en a encore.
Vous descendez la Charente en canoë gonflable, et là vous faites du feu vous-même, alors en frottant des trucs.
Il m'a appris des trucs parce qu'il était odieux, mais c'était un bon prof.
Vous mangez des orties. Vous allez cueillir des plantes que vous jetez dans l'eau en mettant une poignée de riz avec pour vous nourrir. Enfin, vous êtes extraordinaire. Et puis alors, il y a un moment où vous fâchez avec le survivaliste.
Ouais.
Et là, ça devient incroyable parce que là, vous êtes toute seule. Ouais. Déjà, vous errez dans la nuit parce qu'il vous quittez sa voiture et vous errez dans la nuit en Ariège, c'est ça?
Ouais. En fait, il était prévu qu'on passe 5 jours à descendre la Charente en canoë. On dormait sur les petites îles qui jalonnaient le parcours à la Belle Étoile. Et puis ensuite, on devait prendre la voiture, donc c'était une petite tricherie à base de pétrole, mais de quelques centaines de kilomètres, pour rejoindre les Pyrénées, l'objectif étant d'expérimenter un autre biotope, à savoir en montagne. Et le problème, c'est que moi, j'en avais un peu gros sur la patate parce qu'on a eu beaucoup de discussions très lourdes. Il était très anxiogène. Il prenait beaucoup de plaisir à essayer de me
Il vous méprisait beaucoup, vous, la citadine.
Mais en même temps, ce qui est marrant, c'est que je voyais bien qu'il m'aimait bien quand même. Mais il y avait toujours ces discours très, très anxiogènes. Qui étaient très pénibles au quotidien à vivre, d'autant que j'étais dépendante de lui.
Vous avez envie d'écouter le silence de la nature.
Exactement.
Et il parlait tout le temps. C'est comme à la radio.
Hein. C'est vrai. Et donc,
vous grimpez seul en montagne.
Et voilà. Et donc,
toute seule, sans rien.
Il m'abandonne.
Elle part
un peu
seule en montagne, sans rien. Les mains vides. Allez, tiens, je vais partir.
J'avais une bâche pour m'abriter qui a été salutaire parce que j'ai connu l'orage en montagne et ça rend très très humble. J'avais une bâche, un couteau, je crois qu'il me restait une portion de riz.
Vous voyagez léger, vous.
Bah, c'est bien, ça rend plus mobile.
Hein. Ouais. Pour le linge, on fait comment?
Oh, vous savez, ça, c'est des considérations qui sont vraiment très
très
superficielles.
Non, mais moi, j'y pensais, je pense à ces choses-là, moi, quand je lis.
Je comprends. Non, j'avais pris le strict minimum, j'avais 2-3 trucs de rechange, mais j'étais une grosse crado à la fin de la... j'avais le visage noir.
Hein. En même temps, on vous comprend parce que vous racontez des paysages merveilleux, vous racontez la nuit où vous voyez toute la galaxie depuis votre sac de couchage, parce que c'est ce qui vous tient de sac de couchage. Mais enfin, vous dormez aussi avec un couteau serré contre vous. Ouais. Vous avez peur des serial killers?
Ouais, on redécouvre la peur. Moi, j'ai pas du tout peur. Je fais partie de ces gens qui circulent la nuit sans crainte. Mais c'est vrai que, en fait, quand on se retrouve dans la nature et donc potentiellement loin de cet endroit où sont exercées les lois, on a peur, effectivement. Moi, j'ai vraiment éprouvé à de nombreuses reprises ma vulnérabilité et je l'éprouvais notamment face à la potentialité d'un agresseur où je me disais que je pourrais pas lui opposer grand chose physiquement. Donc oui, j'avais très très peur. Et puis j'avais peur de l'immensité, j'avais perdu tous mes repères. Et c'était l'objectif de cette expérience. Au-delà du fait que c'est une réflexion sur la déconnexion de l'humain et de la nature, c'était aussi une expérience sensorielle. Et l'objectif, c'était de voir ce que ça donnait que de mettre, on est tellement petits, les humains sont tellement petits, on est tellement prétentieux et en même temps, on est tellement rien du tout. Et éprouver cette insignifiance, c'était très enrichissant et c'était très rafraîchissant, mais j'ai éprouvé ça dans l'immensité.
Alors écoutez maintenant Jennifer Murzo et Franck Tillier. Le chanteur californien de R&B Nick Waterhouse reprend en 2019 un titre de Ray Charles qui date de 1969, I Feel an Urge Coming On, qu'on pourrait traduire tout simplement par J'ai une urgence.
Coming on strong now.
France Inter. Estivalitude. Christophe Bourseiller.
Mes invités ce matin sont Jennifer Murzeau et Franck Tillier. Alors Jennifer, je crois que vous avez une question que vous souhaitez poser à Franck Tillier.
Franck Tillier, quand et comment débusquez-vous la légèreté dans l'existence ?
Oula,
fixation philosophique. Hein, vous avez 2 minutes.
Mais bon, en fait, je suis plutôt d'ailleurs optimiste. On a l'impression que j'écris des choses extrêmement noires et que tous les gens qui me croisent me disent mais vous êtes très sombre envers l'humanité. Alors que je suis quelqu'un d'assez
Vous êtes très sombre envers l'humanité. Je confirme après avoir.
Oui,
lu
Lucas. j'ai quand même pas mal d'espoir en l'être humain. Il suffit de regarder. C'est vrai qu'on nous montre souvent des choses extrêmement négatives. Il suffit d'allumer la télé, les réseaux sociaux, c'est que de la violence, c'est beaucoup de choses comme ça. Mais il y a encore beaucoup d'humanité, je trouve. Vous l'avez un peu vécu, dans la nature, entre les d'entraide de gens, qu'on a besoin d'aide. Je pense que les gens sont là. Moi, ça m'arrive. Je suis parrain de l'Institut Pasteur de Lille. Et je fais parfois des appels à dons et les gens sont là. Ils sont prêts à donner, ils sont prêts à aider. Donc il y a encore vraiment cette espèce de cohésion qui existe entre les gens. Donc ça, c'est quelque part, c'est rassurant. Alors c'est pas de la légèreté, mais en tout cas c'est une petite note d'espoir quand même quand on est comme moi plongé dans dans le pire de la société. Il y a quand même de la lumière qui existe autour de toutes ces ombres.
Et on arrive à proliférer dans l'ombre, parce que vous avez écrit de nombreux livres et qui sont tous lestés d'ombres, de meurtres, de crimes épouvantables. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, je vais un jour écrire un roman à l'eau de rose, quelque chose, un roman d'amour ou quelque chose pour sortir de cette ombre qui vous envahit?
Mais oui, mais je me pose la question. Après chaque roman, je me dis, le suivant, j'aimerais bien, est-ce que je pourrais pas essayer une histoire d'amour, quelque chose comme ça, et je réfléchis, au bout de 10 pages, il y a un meurtre, forcément.
Ah ouais, forcément
ça ne marche pas.
Ça se teinte de rouge sang. Alors, Franck Tillier, je crois que vous avez, vous aussi, une question pour Jennifer Murzeau.
Oui, c'est par rapport à votre expérience. Je pense que le passage de la ville à la nature et à cette expérience doit être assez difficile. Et j'aimerais avoir votre réponse dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus difficile quand on quitte la nature et qu'on revient dans la vie citadine? Qu'est-ce qui vous manque le plus ou qu'est-ce qui a changé en fait?
En fait, quand je suis, ce qui est amusant en plus, c'est que c'était un retour assez radical parce que je suis revenue par un train de nuit, donc je me suis endormie en regardant les montagnes et je suis arrivée gare d'Austerlitz
à Paris.
Un matin de juillet, ouais, à Paris. Et en fait, je me sentais complètement déconnectée des gens alentour, c'est-à-dire que je voyais, il y avait moins de gens parce que c'était en plein cœur de l'été, mais je les voyais avancer sur le pont, regarder leur portable, regarder droit devant.
Ça vous a rassuré? Après avoir vécu cette immersion totale loin de tout être humain, ouais. Ça vous a rassuré d'être au milieu de la foule d'une capitale?
Non, j'étais pas inquiète. Donc ça m'a pas rassurée. Et puis j'étais contente que la foule soit moins dense que quand c'est pas les vacances, quoi. Là, j'étais contente qu'elle soit plus clairsemée parce que ça aurait été plus violent vraisemblablement comme retour. Mais en fait, ce qui m'a frappée à ce moment-là, c'est que il y avait une très belle lumière et que il y avait les tours de Notre-Dame au loin et il y avait le 5e arrondissement qui est très très beau que je percevais au loin et j'ai trouvé ça très beau. Et donc moi, j'ai pas du tout écrit un livre pour dire que tout était acheté dans la civilisation. J'aime la civilisation, j'aime ce dont l'humain est capable, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il est capable de grandes choses. Le problème, c'est qu'on s'est fourvoyé dernièrement et qu'on a pris des chemins qui sont incroyablement autodestructeurs et qui ne rendent pas heureux. Mais j'étais heureuse de retrouver la ville et je la trouvais belle. Et je me disais juste qu'il fallait réarbitrer les choses pour offrir une plus grande place à la nature parce qu'elle fait partie de nous et que c'est une aberration de le nier. Mais je me suis réadaptée assez facilement. En revanche, ce que ça a changé, c'est que je pense très souvent à ce que j'ai éprouvé loin parce que je me trouve moins bête en nature, dans la nature, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens parce que ça permet de se déconnecter de toutes les vanités de la société, de tous ces impératifs de performance et toutes ces courses égotistes qui nous font cavaler comme des aveugles. Et c'est vrai que quand on est dans la nature, tout ça devient très dérisoire. Et donc j'essaye très régulièrement quand je me sens redevenir complètement débile, ce qui arrive très fréquemment, de me souvenir de l'état d'esprit dans lequel j'étais en montagne. Donc ça a changé ça, une espèce d'attention plus accrue au fourvoiement, en fait.
Alors, vous savez que le Lucas, le titre du livre de Franck Tillier, Jennifer, fait référence à un bébé. Enfin, c'est beaucoup plus qu'un bébé, c'est une histoire extrêmement complexe, mais c'est vrai que vous avez travaillé beaucoup pour ce roman, Franck, sur un thème tout à fait d'actualité, qui est la PMA. Hein, en fait, c'est le problème de la gestation, de la filiation. Pourquoi ?
Parce que ça fait partie vraiment du gros sujet que je voulais traiter dans ce livre, qui est celui du transhumanisme, c'est-à-dire des gens qui sont persuadés qu'il faut améliorer l'homme. Alors, on en a parlé tout à l'heure dans le domaine technologique, mais aussi l'améliorer d'un point de vue biologique, parce qu'aujourd'hui, on en a les capacités d'empêcher des maladies d'apparaître avant que l'enfant naisse. Donc, il y a des gens qui sont persuadés, qui disent « Mais pourquoi on va laisser un enfant naître avec une mucoviscidose ? On est capable aujourd'hui, sur les fœtus, d'aller faire des modifications. Donc, pourquoi ne pas les faire ?» Et donc la GPA, PMA, c'est forcément dans ce sujet-là, c'est-à-dire d'aller choisir quelque part son bébé, de choisir la personne qui va le porter pour lui offrir les meilleures conditions possibles. Donc voilà, ce roman, Lucas, c'est vraiment un vaste sujet qui parle de l'amélioration, enfin de ces gens qui pensent qu'il faut améliorer l'homme dans tous ces domaines-là, qui sont la biologie, la génétique, les manipulations.
Si on peut appeler ça de l'amélioration. Oui. Alors, Jennifer Murzo, je vous ai demandé quel était le son qui vous résumait. C'est toujours difficile de dire qu'est-ce qui me résume. Et vous avez pris du cinéma. On va aller au cinéma ce matin. Vous avez choisi un extrait du film Fight Club.
Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eus. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien.
Quel manifeste. Pourquoi vous avez choisi cet extrait, Jennifer ?
Je ne sais pas si ça me résume, mais c'est un peu une gageure. Je pense que c'est très difficile de trouver quelque chose qui vraiment nous résume. Mais en revanche, j'ai choisi cet extrait parce que, bon, d'abord, j'aime beaucoup ce film, et puis parce que ça résume assez bien l'indignation qui est, la colère en fait, plus que l'indignation qui est la mienne face aux dérives de notre société. C'est-à-dire que je trouve on vit dans des sociétés extraordinairement aliénantes et on vit dans une espèce de dictature très douce et très sournoise parce que elle n'en a pas les apparences et qu'on est enfermé dans quelque chose dont on n'a pas l'idée en fait de s'évader. Et moi, la société de consommation me révulse. Enfin, elle est en train de nous tuer parce que la planète n'est plus capable d'absorber tout ce qu'elle génère, tout ce qu'elle produit. Et puis elle nous aliène en tant qu'individus. Elle nous rend un peu bête, elle nous rend un peu aveugle, elle nous rend tellement peu libre. Et donc j'ai choisi ça parce que ça résume bien. Parce que parfois vraiment je suis excédée, c'est-à-dire que parfois je suis vraiment très en colère parce que je vois bien à quel point on nous fait croire que tout ça c'est le sens du progrès, alors que c'est tout le contraire et que c'est une régression. Le progrès c'était super et puis d'un coup avec la société post-industrielle c'est devenu n'importe quoi. Et donc voilà, ça résume bien l'exaspération qui est la mienne face à la société contemporaine.
Eh ben dites donc, c'est presque un manifeste. Hein. Alors vous, Franck, le son qui vous résume, ça ne surprendra personne, c'est aussi du cinéma, c'est Blanche-Neige. Non, je plaisante, ce n'est pas du tout Blanche-Neige. Écoutez.
Une alimentation correcte a fait de vous une fille solide, mais vous n'êtes pas plus d'une génération de la pauvreté crasse. Je n'ai pas raison, agent Starling. Et cette origine que vous essayez désespérément de cacher, vous foutez du fond de la Virginie. Que fait votre père ? Est-ce qu'il descend dans la mine ? Est-ce qu'il empeste le charbon ? Et les garçons qui n'arrêtaient pas de vous sauter dessus, tous ces tâtonnements pénibles et moites à l'arrière des voitures, pendant que vous n'arriviez que de partir, de vous sortir de là et d'entrer enfin au FBI.
Alors c'était bien évidemment un extrait du film Le silence des agneaux, film d'horreur s'il en est bien sûr. Vous vous identifiez à Hannibal Lecter, le serial killer?
Non, je ne suis pas un psychopathe.
Ah bon?
Non, c'est un film qui m'a vraiment, vraiment marqué, qui a été quelque part peut-être l'un des déclencheurs de mon envie de raconter des histoires. J'ai vu ce film quand j'étais très jeune et on est très influençable, on a très peur quand on regarde ce genre de film. Il m'a vraiment marqué par sa noirceur, par ce rapport entre un assassin et une victime et les flics. Et cette mécanique très américaine de générer le suspense, la terreur. Et voilà, donc c'est, ça a vraiment été... c'est une de mes grandes influences. Dans, c'est un grand film adapté d'un grand roman qui est celui de Thomas Harris, La science des agneaux. Donc, extraordinaire.
Eh bien justement, après le roman noir de Franck Tillier, voici un film noir. C'est un peu de rock français pour démarrer la journée avec le morceau « La mariée vague à l'âme ». Mariée, entre parenthèses, vague à l'âme, par le groupe français Film Noir, une programmation rock garage stoner d'Elsa Béranger.
Vous avez dit,
Ah non,
vous avez dit de quoi? Qu'est-ce que vous avez dit?
Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt?
Je pense qu'on est une génération de femmes, et celle de ma mère l'est aussi, je pense, qui est un peu, pas sacrifiée, mais dont on a énormément attendu. En gros, elles ont beaucoup obtenu, enfin, le féminisme a fait relativement bien son travail, donc du coup, elles ont eu beaucoup de droits qu'elles n'avaient pas avant, mais du coup, il y a eu une espèce de pression sur leurs épaules qui est assez toxique, où il faut être super performante partout.
Finalement, le résultat de la libération de la femme, c'est qu'il faut être une superwoman, c'est ça ? Que vous dites, Jennifer Murzeau, dans cet extrait que nous avons glané?
Alors, j'étais fort jeune d'abord.
Vous n'êtes pas très vieille non plus.
Et je vieillis, vous savez. Je suis plutôt d'accord avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis très féministe. Et d'ailleurs, ça me fait rigoler quand les gens s'excusent un peu ou se prémunissent en disant non, mais alors, attention, c'est pas un film féministe. C'est pas un gros mot, le féminisme. Hein. Le féminisme, c'est du bon sens. Enfin, l'homme est l'égal de la femme. C'est normal. Elle peut prétendre aux mêmes droits. Enfin, je vois pas il y a absolument zéro débat, à mon sens. Après, non, c'est pas, enfin, ce que vous dites, oui, cette libération,
enfin, c'est vous qui le dites, hein.
Elle est extrêmement. Non, mais vous me demandez si ça en a fait une espèce de Wonder Woman et tout ça. La libération de la femme est extrêmement souhaitable, après, enfin évidemment. Et après, il est vrai que moi, je l'expérimente, quoi. La charge mentale et tout ça, c'est raide. Et donc, c'est vrai que c'est très difficile parfois d'être une femme. Il faut être super bonne partout. Et bon, c'est un peu un cliché de le dire comme ça. C'est un sujet qui pourrait être développé plus longuement, mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué d'être une femme. Ça nécessite d'être très performant et ça nécessite d'être très en forme. Et moi, je suis fatiguée.
Bon, bah écoutez, reposez-vous un petit peu. Vous savez que dans votre roman Les Grimaces, ouais, vous critiquiez en fait là le monde de la télévision où vous avez travaillé. Vous y travaillez encore à la télévision?
Non, je suis plus en presse écrite maintenant.
Plus en presse écrite. Vous avez travaillé à France 2.
À France Culture,
ouais, ici même, bien sûr. À Direct 8, qui était, ouais, l'ancêtre de la chaîne C8 aujourd'hui, c'est ça? Franck, vous regardez la télévision?
Oui, je regarde. Alors, beaucoup les séries, en fait. Hein,
Qu'est-ce que vous regardez comme série en ce moment?
La Casa des Papel, la saison 3.
La Casa des Papel.
Je regarde Game of Thrones.
Ouais, comme tout
Breaking
le monde.
Bad, enfin, Breaking Bad. Enfin, voilà, c'est des, ouais, des séries parce qu'elles nourrissent beaucoup le... Alors, je les regarde.
Quelle est la série dont vous êtes le plus proche et qui véritablement est proche de votre imaginaire, selon vous?
Ah, j'aime beaucoup les séries anglaises où il y a une enquête qui est assez lente, qui se déroule sur 8 ou 10 épisodes, où on doit, voilà, où il y a cette ambiance très anglaise, avec le brouillard, avec les décors.
Un peu comme dans vos livres.
Très sombre, un peu comme dans mes livres, et qui finalement ne déploie pas les grands moyens technologiques des Américains et où on est scotché, quoi, et on a envie de connaître l'assassin, et c'est un peu, voilà, je suis très très fan de ces séries-là.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous donne l'envie de faire un livre? Ça va être un article de presse, un site web, une émission de télé?
C'est vraiment un ensemble. Ça peut être un gros sujet de société que j'ai envie de traiter, qui a plutôt une orientation scientifique, hein, parce que c'est ma base. Là, c'était sur le transhumanisme. J'ai fait un sujet sur les virus, sur la mémoire, sur... Donc c'est quelque chose qui touche profondément l'être humain et des sujets qui nous concernent. Et voilà. Et à partir de là, je développe une trame qui est toujours très très complexe, mais je m'abreuve beaucoup de faits divers, de documentation, de savoir des enquêtes policières qui sont en train de...
Et vous êtes jamais intéressé au monde de l'entreprise, parce que Jennifer a écrit un livre qui s'appelle Il bouge encore, qui se passe dans le monde de l'entreprise. Vous, c'était aussi l'envie de critiquer un monde un peu avec des impératifs de rendement, un vocabulaire...
le monde du travail est extraordinairement violent.
Ouais,
c'est
conditionnant,
violence.
Vous dites c'est conditionnant.
Ouais, bah tout l'est, mais le travail, effectivement, c'est... Il faut être des bons soldats, il faut être très performant, il faut remplir des objectifs qui n'ont aucun sens. C'est le management de la terreur. Enfin, tout ça, je trouvais que c'était des sources.
Mais alors, les startups où on vous distribue des croissants le matin, où il y a quelqu'un vient vous masser,
ouais,
ça vous plaît pas?
Mais non, justement, c'est très drôle. C'est-à-dire que plus une entreprise est sale et violente, alors je vais pas citer de nom, mais j'en ai une en tête,
ah bon,
plus les à côté vont être séduisants. C'est-à-dire qu'il va y avoir une salle de fitness, il va y avoir plein de petits trucs pour endormir la conscience du salarié.
Pourquoi vous attaquez Google comme ça?
Non, je parlais pas de Google, je parlais d'une entreprise pétrolière.
Ah bon,
mais Google aussi.
D'accord. Franck, il y a un fait divers qui vous fascine, c'est l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. C'est votre prochain livre, ça, j'espère.
Oui, alors il y a eu, ça aurait pu, parce que c'est vraiment une affaire qui est... C'est un roman, cette affaire-là. Et d'ailleurs, c'est tellement extraordinaire que si on avait écrit le livre sans connaître l'affaire, on aurait dit, mais c'est pas possible ce qui se passe. Alors, il y a eu des adaptations et tout, mais c'est vrai que ça fait partie des gros faits divers où on se rend compte que finalement, la réalité est parfois bien pire que ce que peut imaginer le plus tordu des romanciers.
Oui. Alors moi, j'aime bien parce que vos livres sont traduits dans 19 langues, ils se vendent à plus de 5 millions d'exemplaires et on vous le reproche. Alors j'ai vu, il y avait un article dans Télérama, les Français disent vouloir lire en vacances, justement on est en vacances, mais ne lisez là que les auteurs de best-sellers tels ceux de Franck Tillier. Ça vous énerve quand on dit ça?
Ça ne m'énerve pas qu'on s'en prenne à moi, parce que quand on vend des livres, quand on vend beaucoup de livres, forcément il y a la critique négative, voilà, la jalousie, on apprend à passer au-dessus. Ce qui est un peu énervant, c'est qu'on s'en prenne aux lecteurs qui lisent ces livres-là. comme si on pouvait pas lire du Franck Thillier et puis lire aussi du Zola en même temps, c'est-à-dire on catégorise les gens. Et donc cette journaliste s'en prenait à la personne qui lisait ce livre, elle l'a catégorisé, voilà, sans la connaître. Et ça c'est énervant, c'est-à-dire voilà, la littérature populaire, c'est de la littérature.
Mais vous défendez la littérature populaire, vous dites c'est mon.
Mais complètement, et je défends les gens qui la lisent, c'est des gens qui lisent déjà, c'est important, c'est des gens qui vont en librairie, qui achètent des livres et qui prennent aussi du bon temps dans leur lecture.
Et puis vos livres, ils font 600 pages.
Oui. Ouais.
Je veux dire, c'est vraiment, c'est des vrais lecteurs quand on lit un livre de Franck Thillier.
Oui,
c'est pas un petit bouquin de 100 pages.
Et puis cette littérature populaire a changé aussi, c'est-à-dire que elle fait passer un bon moment au lecteur de suspense, d'enquête policière, mais elle raconte aussi des choses sur notre société d'aujourd'hui. Et ça, on l'a vu avec Millennium, par exemple, qui a vraiment
cartonné
et qui renseigne sur la société d'aujourd'hui, de sa réalité. Et voilà, donc ça, c'est la littérature populaire d'aujourd'hui, une littérature passionnante dans laquelle on ne s'ennuie pas. Et je trouve que c'est bien de ne pas s'ennuyer quand on lit un livre.
Tu veux que je te raconte un souvenir ?
Un souvenir, ah oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire en vacances. On peut lire Lucas de Franck Thillier, on peut lire La vie dans les bois de Jennifer Murzo, ou alors on peut faire quelque chose de totalement différent. Alors, je vous ai demandé à l'un et à l'autre quel était votre plus incroyable souvenir de vacances. Alors, Jennifer, vous, c'est un souvenir de vacances qui est pas tellement loin de La vie dans les bois, ça se passe en Corse. C'est ça ?
Ouais, il est lointain. En fait, je sais pas si c'était incroyable, mais c'est ce qui m'est venu spontanément comme un été marquant. J'avais 16 ans et je suis partie faire le tour de la Corse en stop avec ma meilleure amie.
Ah oui, en stop.
Ouais, parce qu'on n'avait pas
deux belles filles de 16 ans qui font du stop en Corse.
Ouais, c'était parfaitement inconscient.
Provocatrice.
Et non, pas du tout. On était très candides. Et en fait, mes parents pensaient que on était chez son oncle près de Bastia, qui nous avait couvertes.
Ah oui, d'accord.
Qui a dit oui, bien sûr.
Ah, vous n'aviez pas le droit.
Non, pas du tout. Et c'est ça qui était bon, quoi. C'était la transgression. Et donc c'est la première fois que j'ai éprouvé un sentiment de liberté aussi aigu. Parce que liberté de déplacement, enfin parfois contrainte par les aléas du trafic et tout ça, mais bon, c'est vrai qu'on nous laissait pas très longtemps sur le bord de la route. On était beaucoup prises en stop par des familles qui étaient très inquiètes, qui disaient mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites là, mais
venez. Raison, heureusement.
Ouais. Et c'est rigolo parce qu'ensuite on l'a fait plus tard et on était moins prises en stop par des familles vers 25 ans. C'était plus des hommes.
Alors,
mais bon,
vous, Franck Thillier, vos vacances, c'est totalement surprenant. C'est l'accueil d'un enfant de Tchernobyl.
Oui, c'est un souvenir très très émouvant. C'était il y a une quinzaine d'années, par le biais d'associations, il y a des enfants qui venaient très très pauvres, familles très pauvres, qui vivaient dans les zones, dans les villages vraiment très proches de la zone interdite de Tchernobyl, parce qu'elles n'ont pas eu les moyens de partir, tout simplement. Et donc, des associations font venir ces enfants passer un mois d'été en France pour se ressourcer, parce que malheureusement, ces enfants qui n'ont pas connu l'explosion sont quand même contaminés parce qu'ils consomment les légumes de la terre qui sont eux contaminés.
Oui, oui.
Et c'est très, très émouvant parce que ce sont des enfants qui n'ont rien, qui ne connaissent pas rien d'autre que leur petit village. Il y a encore un décalage de 40 ou 50 ans dans ces villages-là. Ils arrivent dans des familles, on les accueille. On ne se comprend pas parce qu'on ne parle pas la langue, mais on communique avec des gestes. Des enfants qui ont 9-10 ans, dont certains ont déjà des cancers ou des problèmes très, très graves. Et le fait de les accueillir pendant un mois, c'est très, très fort. Le moment vraiment très, très émouvant, et je m'en souviens encore parfaitement, c'est le moment du retour de ces enfants qu'on dépose au bus, tous les parents qui les ont accueillis.
Et qui repartent et qui nous
font des signes par la fenêtre. Et c'est très, très émouvant. Et voilà, j'encourage aussi les gens à pouvoir participer à ces expériences-là.
Merci beaucoup Jennifer Murzo et Franck Thillier. Vous avez tous deux fait preuve, je dois dire, d'une remarquable estivalitude. Jennifer Murzo, votre récit La vie dans les bois est paru chez Alary Éditions. Franck Thillier, votre roman Lucas est sorti au Fleuve Noir. Et vous participez cet été, je le signale, à la série La rencontre du Parisien aujourd'hui en France sous la forme d'une nouvelle qui sera publiée le 10 août. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Juliette Medevielle nous fait le plaisir de réaliser Estivalitude. L'émission a été préparée par Astrid Landon, Saad Merzak et Pierre Goulencourt, avec à la technique aujourd'hui Michel Bézikian. Notre boutique éphémère réouvre ce lundi dès 9h sur France Inter. Je recevrai l'écrivain Philippe Besson et le pédopsychiatre Aldo Naouri. Dans quelques minutes, vous retrouverez Laurent Delmas dans Ciné qui chante ce matin. Ce sont les années 80 qui sont à l'honneur. Mais il est 10h sur France Inter.